à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Jacques Crémer, bonjour.
Bonjour.
Jacques Crémer, vous avez 73 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous êtes rattaché à la paroisse de Cornebarieux, Moselle. Alors, c'est pas pour ça que je vous ai fait venir, même si c'est une bonne façon de vous présenter aussi. Je vous ai fait venir parce que vous êtes membre de la fameuse Toulouse School of Economics, après un parcours assez éclectique que je vais retracer en deux minutes. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique, promotion 68, déjà une vieille histoire. Vous avez ensuite été poursuivre vos études au célèbre MIT, à Boston, sur la côte est des États-Unis, où là vous avez fait un PhD. Et puis vous avez enseigné en Pennsylvanie à l'Institut Polytechnique de Virginie pendant un certain nombre d'années. Et en 1991, vous revenez en France, au CNRS, où vous êtes directeur de recherche. Et là, vous revenez à l'École d'économie de Toulouse, où vous êtes toujours depuis. Alors là, évidemment, vous avez eu plusieurs fonctions de direction, notamment vous avez assuré la direction scientifique de l'École d'économie de Toulouse. Je rappelle pour nos auditeurs que c'est l'école où il y avait Jean-Jacques Lafont, malheureusement disparu, et Jean Tirole, qui est prix Nobel d'économie en 2014. Vous avez également été professeur d'économie à l'École polytechnique pendant un certain nombre d'années. Et puis plus récemment, vous avez été nommé conseiller spécial auprès de la commissaire européenne à la concurrence, Margaret Vestager. Évidemment, c'est parce que vos recherches portent sur la théorie des contrats, sur l'économie de l'Internet et aussi sur la théorie des organisations. Je fais court, vous avez fait beaucoup de choses et on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans notre débat. Alors tout d'abord, je voudrais vous demander pourquoi est-ce que vous êtes revenu à Toulouse précisément ?
Bonne question. En fait, c'est un peu bizarre parce que la difficulté d'habiter à l'étranger, c'est que vos enfants ont une culture différente de la vôtre. C'est ça ce qui fait mal aux tripes. Mais je m'étais complètement habitué à l'idée que j'habiterais aux États-Unis pour le reste de mes jours. J'avais été très très heureux à Virginia Tech, l'université où j'étais aux États-Unis. J'avais une année sabbatique, je devais aller à Marseille, travailler avec un ami qui enseignait à Marseille. Et Jean-Jacques Lafont, à ce moment-là, commençait à poser les pierres de ce qui allait devenir TSE et m'a appelé et m'a dit « Est-ce que tu ne veux pas venir à Toulouse passer ton année sabbatique ? Je suis en train de construire un nouvel institut et je pense que ça peut t'intéresser. » Et j'ai dit « Oui ». Alors ça m'embêtait un peu parce que mes parents habitaient à Toulon, mais on a discuté et puis on a dit « Oui, ça vaut la peine ». On est venu à Toulouse. Toulouse nous a plu et surtout l'aventure professionnelle, l'aventure de construction d'une nouvelle institution académique que proposait Jean-Jacques m'a plu et donc je suis resté.
Et vous êtes resté et vous avez participé à l'édification de cette fameuse école d'économie qui a un rayonnement mondial aujourd'hui et qui fait un peu la fierté de l'université Toulouse Capitole et de la ville de Toulouse également.
Et ma fierté aussi.
Et votre fierté aussi, et merci d'avoir contribué à créer cet institut de renom international, ce qui est rare en province, en région, parce qu'assez souvent les choses se concentrent à Paris. Mais qu'est-ce que ça vous a fait de passer du monde anglo-saxon, protestant par définition, et protestant avec une façon de vivre la foi, enfin il n'y a pas la même séparation entre l'Église et l'État qu'il y a par exemple en France, et de passer à un monde latin, parce que Toulouse c'est vraiment un monde latin, catholique.
Alors, en fait, il y a une grosse présence catholique aux États-Unis. La plus grosse église, il y a plus de catholiques que de n'importe quel groupe protestant.
Ah oui.
Et donc, en fait, de façon bizarre, ça, ce qui était difficile pour moi, c'est plus de passer du catholicisme américain au catholicisme français
toulousain.
Européen.
Ouais.
En fait, nous allions à... Nos enfants ont été baptisés, ont fait leur première communion à Sainte-Mérèse, qui était l'église de Blacksburg, où nous habitions aux États-Unis. Le prêtre qui était... Father Paul, qui était le prêtre, était un bon ami qui était... Ma femme est protestante, mais elle avait beaucoup d'affection pour lui. Donc, en fait, c'était plus de passer de cette église qui est, comment dire, beaucoup plus moderne et dynamique que l'église catholique française, qui a été un choc.
Et si vous aviez quelques conseils peut-être à donner à nos églises et à ceux qui les font vivre?
C'est dur à savoir, mais juste pour vous donner un exemple à Blacksburg, quand nous sommes arrivés, l'église, la paroisse catholique avait construit une nouvelle église. Nous y sommes retournés il y a quelques années, ils en ont construit une autre encore. Le budget de la paroisse était 20 fois supérieur, je ne sais plus, j'avais eu les chiffres, mais énormément supérieur au budget de la paroisse en France. Ils avaient, dans la paroisse à Blacksburg, donc une petite ville, hein, qui a 20 000, 30 000 habitants, mais avait un directeur of religious education, un directeur de l'éducation religieuse, qui était employé à temps plein par la paroisse. Donc on parle d'un
univers très différent.
Un univers très différent, oui.
Ouais. Oui, c'est sûr que, sans refaire l'histoire, mais... La loi de séparation de l'Église et de l'État a quand même fait que l'État ne finance plus, normalement, sauf pour les catholiques, justement, où les communes et l'État, pour ce qui concerne les cathédrales, sont restés propriétaires des bâtiments. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe en France de dire que l'Église dans laquelle on se réunit nous appartient. En fait, elles appartiennent aux communes, qui s'en occupent plus ou moins, parfois très bien, parfois... médiocrement, et il est peu fréquent de construire, peut-être dans certaines villes nouvelles de temps en temps, mais peu fréquent de construire des églises, parce que les communes ont peur que d'autres communautés, et notamment les communautés musulmanes par exemple, qui sont très pratiquantes, leur demandent de faire la même chose. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte très différent. Bien...
Pardon, juste là-dessus, dans l'église qui avait été construite, il y avait une cuisine pour que les gens puissent, après la messe, alors aller prendre un café dans la cuisine en bas, et puis on pouvait faire des réunions où les gens venaient partager des choses, etc. Donc c'était pour, il y avait beaucoup plus de cette notion. Disons, les églises en France jouent un rôle dans la communauté locale, alors que là-bas, elles sont une communauté un peu à part. Donc la vue communautaire... Ouais. De la paroisse catholique de Blacksburg était vraiment assez intense.
Oui, il y a certaines paroisses ont comme ça des lieux où les gens peuvent se retrouver après la messe ou de temps en temps dans la semaine, etc. Mais c'est vrai que c'est pas monnaie courante et qu'il n'y a pas une foule qui participe à ce genre d'activité. Bon, je voudrais revenir à l'enseignement et à la recherche en économie. L'économie, c'est une science. Je pense que tout le monde n'en a pas nécessairement conscience. Et souvent, on entendait en tout cas, que les économistes se trompent tout le temps, ils ne sont pas capables de prédire l'avenir, etc. Bon, je sais que ce sont des questions qui vous sont souvent posées, qui vous agacent beaucoup, mais comme nos spectateurs, nos auditeurs n'ont pas forcément les réponses, j'aimerais que vous nous disiez, vous, comment vous concevez votre recherche et votre enseignement en économie.
J'aime faire des comparaisons avec la médecine. La médecine est une science, okay, et si vous êtes médecin, vous connaissez des tas de... Vous faites de la recherche en médecine, vous connaissez beaucoup de physique, de biologie, de chimie, pour comprendre des tas de micro-mécanismes dans le corps humain. Mais par contre, on n'a pas un modèle complet de tout l'être humain. Et quand un docteur regarde un patient, il ne peut pas prédire toujours, il ne peut pas prédire quel va être le futur. Votre docteur ne peut pas vous regarder et vous dire, vous allez mourir dans 12 ans et demi. Parce qu'il y a à la fois un mélange de science dure, donc on comprend des micro-mécanismes, et puis une espèce d'intuition qui essaye de tout mettre ensemble. Et donc, c'est beaucoup la même chose pour l'économie. D'ailleurs, c'est aussi vrai pour les sciences de gestion que vous avez étudiées. Il y a des choses que l'on connaît avec certitude, mais qui sont en général des micro-éléments. Et puis, il y a de l'intuition qui est comment est-ce qu'on met tout ça ensemble. Et il y a des économistes, d'ailleurs, qui sont très bons sur les micro-éléments et pas très bons sur avoir une image complète, un peu comme il y a des très bons médecins de ville qui ne sont pas des bons scientifiques, et vice-versa.
Et je pense qu'on peut dire que nos sciences économiques et humaines en général, d'ailleurs, sont des sciences de l'explication, pas des sciences de la prévision. Il y a d'ailleurs peu de sciences qui sont des sciences prédictives. Elles sont plutôt explicatives par nature. C'est souvent ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que le scientifique est là pour expliquer comment marche le monde. Il n'est pas là pour dire où va le monde. Alors, quand on sait comment ça marche, on peut, dans certains cas, faire des prévisions. Hein. Mais, par exemple, sur l'astrologie, les planètes, la place des planètes, ou dans nos domaines sur la démographie, ce sont des choses assez stables dans lesquelles on a une capacité de prévision. Mais, pour beaucoup de choses, c'est beaucoup trop complexe. Donc, il ne faut pas chercher à prévoir. Je pense que vous partagez ce point de vue.
Oui et non, mais il y a des choses que l'on peut prévoir. Je sais que si je décrois le prix de l'électricité, les gens en consommeront plus que si je le fais monter. Il y a quand même des choses que l'on peut prédire, mais c'est prédire les 5 prochaines années de l'économie, ça non, c'est pas faire.
Ça, on
le fait très mal, disons.
Ouais, il faut dire qu'il y a beaucoup de variables qui n'ont rien à voir et qui interfèrent. Qui aurait pu prédire la guerre en Europe, ne serait-ce qu'il y a un an? Je pense que voilà. Bon, je voudrais aussi que vous nous disiez un mot de votre expérience à l'autorité de la concurrence, parce que je trouve que c'est une des choses qui marche bien en Europe. Or, peu de gens savent d'abord que ça existe, et encore moins comment ça marche.
Alors, ce n'était pas vraiment à l'autorité de la concurrence, c'était auprès de la commissaire à la concurrence européenne, donc ce n'était pas l'autorité française. Et en fait, on m'a demandé, avec deux collègues, Heike Schweitzer, qui est une juriste allemande qui enseigne à Berlin, et Yves-Alexandre de Montjoie, qui est un informaticien belge qui travaille en Angleterre, qui travaille à Londres. La commissaire nous avait demandé de préparer un rapport sur comment devait évoluer le droit de la concurrence
européen.
Et donc, c'était une expérience très intéressante parce qu'il y avait. D'abord, c'était. En général, quand les gens font du droit de la concurrence, c'est des économistes et des avocats. Et là, il y avait en plus un technicien. Donc ça, et ce que nous avons fait, c'est que nous avons rendu un rapport dans lequel nous proposions certaines modifications de la façon dont le droit de la concurrence était appliqué en Europe. Alors en fait, ça a eu à la fois pas mal d'influence et peu d'influence. Alors pas mal d'influence parce qu'il y a eu aussi un certain nombre d'autres rapports qui sont sortis en même temps qui disaient un peu la même chose, qu'il fallait beaucoup réformer le droit de la concurrence. Mais il n'y a pas eu de réforme du droit de la concurrence en fonction de ça. Ce qu'il y a eu, c'est que la Commission a décidé on n'arrivera pas à réformer le droit de la concurrence dans cette direction-là. Ce qu'on va faire, c'est introduire une nouvelle régulation, hein, donc plutôt que de qui est un instrument différent que les États peuvent employer. Et donc, on me dit, alors je ne sais pas si c'est par politesse ou non, que notre rapport a eu de l'influence dans la façon dont la nouvelle régulation, le digital, ce qu'on appelle le nom anglais, c'est Digital Market Act, je ne sais plus quel est le nom en français, qui va apparaître au journal officiel au mois de la Communauté européenne au mois d'octobre. Qui est vraiment quelque chose d'important dans la façon dont l'Europe va interagir avec les plus grosses entreprises du net comme Amazon, Facebook, Microsoft, etc.
Les fameux GAFA.
Les fameux GAFA ou GAFAM, si on le, oui. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, Voilà mon expérience.
C'est vrai que ce sont des gens, des enjeux qui impactent notre vie de tous les jours. Et le contrôle que peut exercer un pays, on le voit bien, est totalement inefficace, surtout quand c'est un pays relativement modeste, comme la France, qui est moyen d'un point de vue économique. Alors qu'au niveau de l'Europe, on a vu dans le passé que l'Europe avait un pouvoir de négociation bien plus fort, parce qu'il y a plus de 300 millions de consommateurs, et que donc, si l'Europe met des interdits, et il est vraisemblable, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, que ces pratiques européennes vont se renforcer avec la volonté de rapatrier un certain nombre de productions stratégiques ou considérées comme telles par les politiques.
Oui, alors, je suis d'accord avec vous. Hein, je crois que l'Europe est le bon niveau pour interagir avec ces grosses entreprises. Bon, ceci dit, il ne faut pas juste se dire, est-ce que l'Europe va arriver à avoir une influence? Le problème, c'est est-ce que l'Europe va arriver à avoir une bonne influence? Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que les GAFAM ont quand même été des entreprises qui ont été incroyablement innovatives. Nous nous servons tous de WhatsApp. Les compagnies de téléphone n'ont jamais réussi à nous donner un téléphone avec visio. Hein. On en rêve depuis les années 60. Vous avez des films où je peux voir mon interlocuteur. Nous nous servons tous de WhatsApp pour communiquer avec nos enfants, nos petits-enfants... ou nos amoureux quand ils sont à l'autre bout du monde. Donc, elles sont vraiment des entreprises qui ont eu une énorme influence positive. Le tout, c'est, comme toute innovation, il y a aussi des aspects négatifs, et le tout, c'est d'arriver à bien équilibrer les règles que l'on impose de façon à ce qu'elles ne tuent pas loi qui nous donne les œufs. Enfin, oui. Pardon, j'ai la mauvaise métaphore. Mais...
Acheter le bébé avec l'eau du bain, comme merci, on dit, assez trivialement. Merci pour ces éclairages. Je voudrais que maintenant, on aborde un peu des questions plus personnelles. Vous êtes catholique, pratiquant, vous avez éduqué vos enfants dans cet environnement catholique, même si votre épouse est reste protestante. Au fond, c'est quoi être chrétien aujourd'hui quand on est un scientifique entouré de gens, généralement, qui vous disent que la foi et la rationalité scientifique, ce sont deux mondes incompatibles. Donc, comment vous avez concilié tout ça?
Aucun problème. Mais je n'ai jamais compris pourquoi il y avait un problème. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que quand je réfléchis à ma foi, j'emploie les mêmes instruments intellectuels que quand je réfléchis à l'économie. Alors, si on revient à la comparaison avec la médecine qu'on avait tout à l'heure, c'est... Bon, il y a des choses que l'on sait de façon sûre scientifiquement. Si je laisse tomber mon stylo, je sais qu'il ira vers le sol avec grande probabilité. Et puis, il y a des choses où on a besoin de mettre ensemble des éléments qui sont un peu plus flous et qu'on essaye de concilier le mieux possible. Et il me semble qu'une position de foi chrétienne est parfaitement rationnel et ne me pose aucun problème. Je ne fais pas de la magie quand je vais à l'église et j'ai jamais compris pourquoi il y avait un paradoxe. Par contre, alors, ce qui me semble, c'est qu'il y a pas mal de nos collègues universitaires qui ont une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire ils disent « Ah, mais nous, on est des scientifiques, dans notre vie professionnelle, on ne croit que à ce qu'on peut prouver, qu'on a eu des expériences ou des statistiques qui le montrent de façon sûre, et donc je ne crois pas en Dieu parce que je ne peux pas le prouver. Mais ils croient encore qu'il faut aimer leurs enfants, ou qu'ils croient encore que... Mais ça ne sort pas d'une rationalité scientifique, ça sort de quelque chose d'autre. Et donc, je ne comprends absolument pas la façon dont beaucoup de nos collègues scientifiques pensent à ces problèmes.
Écoutez, je suis très heureux d'entendre ça parce que je partage la même foi que vous. Moi aussi, j'ai été confronté à beaucoup de collègues puisque je suis moi-même universitaire et que j'ai essayé de faire de la recherche avec des outils scientifiques, mais... je n'ai jamais vu de différence de démarche. Et j'ai le sentiment, alors je ne sais pas si vous avez le même, j'ai le sentiment à travers mes lectures récentes que de plus en plus, cette frontière entre ce qu'on disait il y a 50 ou 100 ans, de dire « si vous êtes absolument rationnel, vous ne pouvez pas être croyant », aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui disent ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en étant rationnel, on en arrive à être croyant. Et je suis très content que vous développiez ça.
Je n'irai peut-être pas jusque-là. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on peut juste, avec la rationalité, aller à la fois. Ce que je veux dire, c'est...
Moi, je trouve qu'avec la rationalité, à un moment, tout prend du sens.
Je pense que l'émission ne doit durer qu'une demi-heure, on ne peut peut-être pas rentrer dans cette discussion-là.
C'est vrai. Je voudrais qu'on passe un peu le temps qui nous reste avec un ouvrage que vous m'avez très gentiment envoyé, qui s'appelle, alors qui est écrit par une Américaine, Madame Tish Harrison Warren, et qui s'appelle « La liturgie de la vie ordinaire, pratique sacrée du quotidien ». C'est un ouvrage qu'on peut trouver en français depuis 3 ou 4 ans, qui est aux éditions Excelsis. Alors cet ouvrage décrit de façon assez complète toute une journée, hein, elle suit chronologiquement du matin jusqu'au soir, en expliquant que dans sa pratique quotidienne, il y a une façon de vivre qui est une façon chrétienne, catholique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet ouvrage?
D'abord, j'aime beaucoup Tish Harrison Warren, qui en fait, depuis qu'elle écrit cet ouvrage, a une vraie célébrité aux États-Unis. Elle écrit pour le New York Times, qui est quand même un des grands journaux américains, toutes les semaines.
Ah oui.
Et de façon intéressante, c'est une anglicane qui est prêtre dans l'église anglicane des États-Unis. Et en fait, une des choses qui m'a frappé dans ce livre, avant de parler du reste, mais c'est tout au début, elle dit « Un jour, je suis allé à une réunion et on parlait de qu'est-ce que ça voulait dire d'être chrétien. » Et on disait « Vous dire chrétien, ça veut dire vous donner de l'argent aux pauvres, vous participez à la confrérie Saint-Vincent de Paul, etc. » Mais la plupart des gens, dans la vie ordinaire, passent leur vie à faire d'autres choses que ça. Donc, elle donne l'exemple d'un comptable. Un comptable passe sa vie devant des tableaux Excel. Et lui dire que sa foi et son salut ne vient que de ce qu'il fait en dehors de ce qu'il fait dans toute la journée est quelque chose qui semble
c'est réducteur.
Et donc l'idée du livre, c'est un peu de dire mais toute la journée en fait doit être prise dans le doit être influencée par votre foi. Alors on sait pas très bien ce que ça veut dire. Quand je suis en train d'essayer de prouver un théorème, parce que je suis un théoricien, je m'amuse beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que je le fais en tant que catholique? Je fais sans doute la même chose que mon collègue avec lequel je suis en train de travailler et qui ne l'est pas. Mais je pense que si je ne pense pas que ça participe au salut du monde et à mon salut, c'est pas la peine de le faire. Donc
c'est très très intéressant. C'est vrai que c'est la première fois que j'étais face à un écrit de ce type. C'est très dans la philosophie américaine, comme ça, d'exposer sa vie privée, etc. Mais on trouve un tas de petites idées, de petits exemples, comme vous venez d'en prendre, en disant, au fond, c'est tous les jours. La foi, c'est une façon d'être, une façon à l'écoute, une façon dans une fraternité, dans un humanisme. Donc, merci de m'avoir...
Et je crois que ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que si jamais on est en train de faire du travail, enfin du travail de recherche comme vous en avez fait, ou même du travail d'administration universitaire comme vous en avez fait et comme j'en ai fait, d'une certaine façon, quand on fait ce travail-là, c'est pas tellement qu'on le fait juste pour être au service des autres, c'est qu'on le fait pour soi-même et qu'on doit le faire avec une espèce de reconnaissance à Dieu qu'il nous donne l'occasion de faire ce travail-là. Donc si vous êtes dans une réunion difficile et que vous êtes en train d'essayer de trouver une solution à un problème, il y a à la fois, il faut être gentil avec les autres, pas se mettre en colère, etc. Donc ça, tout le monde est d'accord. Mais je crois qu'il y a en plus une attitude d'émerveillement devant le fait qu'on peut participer à ce genre de projet. Donc c'est ça ce qui m'a séduit dans ce livre. Je voudrais juste dire pour les auditeurs qui seraient bilingues et qui arriveraient à lire l'anglais, je ne trouve pas la traduction française très très bonne. Alors si vous voulez acheter le livre en anglais, si vous pouvez lire les livres en anglais qu'on trouve sur une grande plateforme de l'internet, n'hésitez pas.
C'est Amazon pour ne pas la nommer. Bien, Jacques Crémer, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Le temps est passé très vite, mais on aura peut-être d'autres occasions de se rencontrer. Et merci aussi pour nous avoir fait connaître cet ouvrage, dont je rappelle le titre « Liturgie de la vie ordinaire, pratique sacrée du quotidien » chez Excelsis de Thys Harrison Warren. Merci, Monsieur Crémer.
Merci beaucoup, Bruno.